On a souvent tendance, et on l'entend dans les médias et au niveau de nos politiques, en disant la prison est le premier lieu de radicalisation. Alors je vais vous dire tout de suite que c'est faux. C'est pas le premier lieu, en revanche, c'est un lieu particulier, parce qu'un lieu où il y a de la violence, il y a de plus en plus de malades mentaux aussi incarcérés. Donc on est dans un contexte particulier qu'est la détention. Bienvenue, Charlie. Et de ce fait, ça accélère le processus, puisque selon les chiffres de 2015 ou 2016 du ministère de la Justice, 86% des personnes incarcérées pour des faits de terrorisme arrivent en prison pour la première fois. Donc ça peut bien dire qu'il y a d'autres lieux. En fait, tous les lieux de socialisation, à commencer par la famille, qui est le premier agent socialisation, et avec toutes les personnes qui sont passées à l'acte ces dernières années, on voit bien que dans la famille, soit il y a énormément de violence, ou soit il y a déjà une forme de radicalité qui s'exprime. Et puis, j'allais dire l'école, mais il y a toujours cet entre-deux, en tout cas, cette entrée dans un processus, on dit bien un processus, c'est pas du jour au lendemain, on a dit à tort cela. C'est un processus, et je parle, moi, quand je parle de radicalisation, de processus de rupture dans les discours et au comportement pouvant ou non conduire à la violence. Ce qui est condamnable en France, c'est le fait de faire l'apologie de la violence, de faire l'apologie de la haine ou de passer à l'acte violent. Le fait d'avoir une certaine forme d'idéologie extrémiste en soi, là, on est dans un pays où la liberté de conscience est possible. Donc on ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il a une idéologie comme ça dans sa tête. C'est simplement s'il combine cette idéologie et il essaye de l'imposer par la violence. C'est ça qui est condamnable. Et quelle que soit la mouvance radicale, c'est la définition de la radicalisation. Alors c'est un terme qui fait effectivement débat, autant à l'université que dans le monde institutionnel. Moi, c'est un terme que je garde parce que je garde cette définition-là. C'est un terme qui a été utilisé en sciences sociales dans le monde anglo-saxon. On parlait beaucoup plus de terrorisme avant quand on parlait de l'acte. Et on a commencé à parler de radicalisation quand on a voulu s'intéresser aux individus. Et non pas à l'acte simplement, à l'attentat en lui-même. Aux individus, pourquoi ? Parce qu'à Madrid et à Londres, ce sont des individus qui se retournent contre leur propre société. C'est-à-dire ce ne sont plus des étrangers qui viennent sur un autre sol commettre des attentats. Un exemple, vous êtes tous très jeunes, mais certainement connaissez-vous le groupe islamique armé dans les années 90. C'était généralement des Algériens qui venaient sur le sol français commettre des attentats. Ça a commencé comme ça. Et la radicalisation, c'est le fait de s'intéresser au parcours, aux trajectoires des individus qui, à un moment donné, passent à l'acte. Voilà. La France s'est intéressée tardivement, on va dire, à la radicalisation, et pour cause, parce que pendant une quinzaine d'années, il n'y a pas eu d'attentats. Il y a eu 2012, mais avant 2012, il y a eu 15 ans où il n'y a plus d'attentats en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte, des tentatives de passage à l'acte. Ça ne veut pas dire que des personnes n'ont pas été incarcérées entre-temps. Ça n'a pas été forcément médiatisé, mais il y avait effectivement toujours eu des tentatives. Alors, il faut dire peut-être qu'à l'époque, le service de renseignement français était au top, puisque c'est vrai que pendant 15 ans, il n'y a pas eu d'attentats. Sauf que très vite, l'administration pénitentiaire, je vante souvent ses mérites, au moins pour ça, c'est la première administration française à s'être intéressée au phénomène. C'est l'ancien directeur de cette administration en 2009 qui, dans un colloque international sur le sujet de la radicalisation, rencontre mon directeur de recherche de l'époque, Farhad Khosrokhavar. Donc c'est une grande référence, je vous conseille vraiment de voir un peu sa bibliographie, et je vous renvoie à l'Islam des jeunes de 1997, mais toujours d'actualité, hein, qui parle de ce bricolage religieux, et puis beaucoup plus en lien avec notre sujet et en lien avec les prisons. Je vous conseille Radicalisation, qui est un peu la synthèse du rapport qu'on a rendu en février 2014 et qui est paru donc en décembre 2014, je crois, et c'est La maison des sciences de l'homme. Ça s'appelle simplement radicalisation. Vous aurez plus d'éléments sur la question des prisons, puisque évidemment en 20 minutes, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup d'informations. En tout cas, pour vous dire que oui, la prison s'est intéressée à ce phénomène-là, parce que dès la fin des années 90, avec l'arrivée effectivement des groupes islamiques armés, et avec certains leaders charismatiques, on va dire, hein, c'est toujours une minorité, mais il y en avait. Certains d'ailleurs sont toujours incarcérés encore dans certaines prisons. Certains leaders arrivaient à faire convertir finalement à cette cause beaucoup de détenus, hein, des dizaines voire des centaines de détenus de droit commun. Donc il y a les détenus des mouvances terroristes, basques, corses et islamistes, et puis on appelle détenu de droit commun, c'est-à-dire pour toute autre raison, comme meurtre, viol, vol, etc. C'est ce qu'on appelle détenu de droit commun. Donc déjà à l'époque se posait au sein de l'administration pénitentiaire la question de savoir est-ce qu'on doit, et ça a fait débat après les attentats de 2015, est-ce qu'on doit finalement déplacer ces individus qui risquent d'influencer les autres détenus. Et là du coup on a une islamisation des prisons françaises, en tout cas des maisons d'arrêt, ou est-ce qu'on doit les mettre ensemble. Ce n'est pas un débat qui date de 2015, c'est un débat, encore une fois, qui date des années 2000, début des années 2000. Cette question de savoir, est-ce qu'on peut les mettre à l'isolement ? Le droit fait, l'état de droit fait qu'on ne peut pas mettre 20 ans un individu à l'isolement, parce que après la question de la réinsertion se pose aussi. Et voilà, donc ça faisait déjà débat. Si c'est la première administration à s'être intéressée au phénomène, c'est ce que je vous disais, c'est l'arrivée massive à un moment donné de ces individus-là. Alors, le directeur de l'époque avait proposé de financer une étude pendant 2 ans. On a commencé en 2011, donc quelques mois avant l'affaire Mera. L'objectif, c'était de comprendre, c'était une étude purement universitaire, hein, pour le coup, comprendre le phénomène de radicalisation religieuse en prison. Ce qui se passe en prison, même si la prison, c'est, on va dire, une mini-société, ça représente un peu l'extérieur, avec un peu plus de violence, de colère, etc., mais c'est vrai qu'il y avait différentes de stratégies. Donc on a mis pas mal de préconisations à l'époque, notamment l'administration pénitentiaire en 2008 avait ce qu'on appelle une grille de détection pour détecter, on va dire, sur des signes visibles, souvent ostensibles, donc le port de la barbe, voilà, les prières sauvages, enfin des éléments comme ça qui permettaient, selon l'administration, de considérer qu'un tel s'était radicalisé, risquait de se radicaliser, etc. Et sauf que c'est beaucoup plus complexe. Et puis, lorsque quelqu'un se convertit à l'islam en prison ou se réislamise, je parle de réislamisation quand il s'agit d'un individu issu, on va dire, d'une culture musulmane, mais qui décide de passer à une autre pratique, c'est parce que il y a des stratégies aussi de vie en prison. Je pense notamment aux affaires de mœurs. Certains ne pouvant pas sortir de leur cellule, décidaient à un moment donné de se convertir ou de se réislamiser, en tout cas de manière ostensible, pour appartenir à un groupe. On appelle souvent, c'est la conversion par opportunisme, ou en tout cas de protection. C'était un moyen de pouvoir aller en promenade, de pouvoir aller aux douches sans être violenté, parce que, encore aujourd'hui, mais Farid est toujours plus présent en prison. On s'est connu d'ailleurs lors de l'étude en 2011 à Fleury-Mérogis, ça faisait partie des 5 prisons qu'on visitait. Les affaires de mœurs sont souvent un peu le bas de l'échelle, on va dire, des délinquants ou criminels en prison. Hein. En haut, on a toujours un peu les braqueurs. On a même, je crois, les terroristes. Hein, quelquefois, ils sont très, très admirés. Voilà. Et puis, tout en bas, on a évidemment les pédophiles, les violeurs, enfin, voilà, et qui ne sont pas très bien vus par leurs co-détenus. Et donc, il faut trouver des stratégies. Pour certains aussi, ça peut être un moyen d'arborer un islam rigoriste, qui est une forme de radicalité, certes, comme je vous disais, pas forcément violente, mais qui est aussi une stratégie un peu, entre guillemets, pour reprendre les propos de certains détenus, d'emmerder l'administration pénitentiaire, parce que il y avait ce sentiment, et je crois qu'il est toujours présent, que l'islam est méprisé à l'extérieur, c'est-à-dire dans la société. C'est une religion aussi méprisée à l'intérieur à l'intérieur des prisons, et donc on va arborer cet islam comme si finalement c'est un contre-pouvoir de l'administration qui décide de quand on va se doucher, de quand on va se promener, de quand on va manger, etc. Donc il y a pas mal de stratégies où on ne peut pas simplement considérer que tous les détenus sont radicalisés, quoique potentiellement, je dirais que les 60 000 détenus ont tout plein de facteurs pour qu'ils se radicalisent, en tout cas une cause qui devienne violente. D'ailleurs, le taux de récidive est toujours très important. 7 personnes sur 10 retournent en prison, c'est pas rien. Donc il y a tout aussi, à travers la radicalisation, se questionner finalement. On s'est penché en tout cas sur les prisons à travers le prisme de la radicalisation, qui est loin d'être le premier problème en prison. Voilà, mais ça a permis effectivement d'obtenir plus de moyens et de regarder un peu nos prisons, en tout cas les prisons françaises. Voilà pour, en tout cas, le contexte. Il y a eu pas mal de préconisations, notamment concernant les aumôniers. Et j'en parle pas parce qu'il y a Farid, mais parce que c'était une de nos préconisations de dire il faut plus d'aumôniers en prison. Alors après, ce n'est pas l'administration qui les recrute en soi, hein, ce sont des bénévoles qui ont des indemnités, ils n'ont pas de statut de fonctionnaire, hein, je veux dire, c'est des volontaires. Et l'aumônerie nationale musulmane qui existe vraiment est institutionnalisée depuis 2006. Avait du mal aussi à recruter des volontaires parce que bon, voilà, c'est pas forcément évident, ou ils préfèrent aller dans les hôpitaux. Et il y en avait peu. Alors on avait dit non pas pour lutter contre la radicalisation, mais simplement pour respecter le droit, c'est-à-dire le droit de culte des personnes détenues, puisque dans les lieux clos comme les hôpitaux, l'armée, les internats et évidemment les prisons, il y a le droit de culte qui a été réactualisé en 2009 qui permet à chaque individu de pouvoir exercer sa religion. Et pourquoi est le lien avec la radicalisation? Tout simplement parce que ça pouvait, la frustration de certains détenus qui étaient musulmans ou non d'ailleurs, qui constataient effectivement qu'il n'y avait pas du tout assez d'aumôniers musulmans. Alors il y avait des griefs qui étaient à la fois réels, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'aumôniers musulmans, et il y avait des griefs un peu réels, donc il n'y a pas assez de musulmans, enfin d'aumôniers musulmans, et puis des griefs, ce qu'on appelle imaginaires, c'est-à-dire l'idée que finalement c'est un choix de l'administration de ne pas favoriser comme les catholiques, etc., les musulmans. Donc il y avait aussi cette frustration, pas mal de rumeurs aussi qui circulent en prison. Donc ça pouvait frustrer encore plus ces individus qui étaient déjà frustrés à l'idée d'être musulmans en prison. Donc voilà, il y avait cette idée d'avoir plus de musulmans en prison. Le rapport a été rendu en février 2014. Et juste pour terminer avec les aumôniers, je parlerai rapidement de la recherche action. C'est que malheureusement, lorsqu'il y a eu l'affaire Mera, mais plus particulièrement lorsqu'il y a eu Charlie Hebdo et l'hyper cachère, donc janvier 2015, le gouvernement de l'époque, mais je pense que le gouvernement actuel aurait fait la même chose, enfin peu importe le gouvernement, il aurait fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un attentat et on décide à un moment donné de mettre un peu, pas le starter, quand je ne conduis pas, je ne sais pas comment on met la cinquième vitesse, voilà, et, voilà, on réagit très rapidement. Et Valls à l'époque, Monsieur Valls, Premier ministre, avait publiquement dit, sur toutes les chaînes de télé, du coup ça avait été repris, que pour lutter contre la radicalisation en prison, il fallait plus d'aumôniers et que nous allons, donc l'État, ce qui n'est pas le cas en plus, l'État va recruter plus d'aumôniers. Donc évidemment les détenus passant leur temps, notamment en maison d'arrêt, entre quatre murs et la télé, et BFM qui tourne en boucle, regarde et voit ça. Donc déjà l'image du rapport entre détenus et aumôniers n'était pas toujours très simple, parce que, alors c'est moins en moins le cas, et puis Farid le prouve parce qu'il n'est pas si vieux que ça, c'était souvent un peu l'image de l'islam traditionnel des parents, de leurs parents, qu'ils essayaient justement de couper. Donc c'était pas un lien si facile, d'une part, mais en plus en disant ça, ça veut dire que les aumôniers eux-mêmes deviennent presque des officiers d'enseignement. C'est-à-dire qu'ils sont là, non pas pour la liberté de culte, mais ils deviennent un peu les garants de la lutte contre la radicalisation, comme il y a eu d'ailleurs pendant longtemps, et je crois que c'est toujours le cas, même s'ils sont de plus en plus laïcs, les aumôniers catholiques pour lutter contre le suicide. Donc chacun sa fonction. Alors depuis peu, il y a les témoins de Jéhovah. Je ne sais pas quelles sont leurs fonctions, mais enfin, peu importe. Donc il y a eu pas mal de dégâts aussi sur à la fois sur le fait de dire que la radicalisation avait lieu qu'en prison. Les chiffres le prouvent, et puis évidemment qu'il y a d'autres lieux. J'étais encore au procès, là, tout à l'heure, au palais de justice, sur des jeunes filles. Alors, je ne les ai pas rencontrées, je sais que tu les as rencontrées, je ne les ai pas rencontrées, mais c'était très intéressant de voir les trajectoires classiques de ces jeunes filles qui, finalement, évidemment, ne sont pas obligées de passer par la case prison pour décider, du jour au lendemain, de soit poignarder quelqu'un, ou soit essayer de commettre un attentat. Même si leur histoire est assez pathétique dans la mesure où c'était très peu organisé et en même temps très bien supervisé. Enfin, c'est le paradoxe, peut-être Farid en parlera tout à l'heure. Donc voilà, pour finir et pour laisser place aux questions, je vais juste ensuite parler de la recherche-action que j'ai dirigée du coup suite à cette étude, donc rendue en février 2014. En octobre 2014, il y a un appel d'offres national. Cette fois, on ne vient pas chercher des gens pour mener une étude pendant 2 ans, mais il y a un appel d'offres national pour mener une recherche-action. Alors, recherche-action, c'est une recherche, on va dire, on fait plutôt un état des lieux très rapide, diagnostic très rapide aussi. En fait, en général, il faut connaître déjà le terrain dans lequel on va être opérationnel. et opérationnelle en direction de l'institution. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de sortir simplement avec des préconisations au bout d'un an, deux ans de travail, mais de sortir avec des dispositifs concrets. Soit une grille de détection, comme ça a été la demande de l'administration à l'époque, mais on a plutôt proposé une méthode de détection et d'évaluation des besoins de la personne détenue, avec une équipe pluridisciplinaire, avec l'idée que ce n'est pas simplement la détention, en tout cas là où se trouvent les surveillants, les officiers d'enseignement, qui décident qu'un tel est radicalisé, que ça doit être un consensus entre différents secteurs professionnels, à la fois les travailleurs sociaux, les enseignants, qui ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire, mais il y a l'éducation nationale qui intervient, secteur de la santé, pareil, qui est indépendante, qui dépend du ministère de la Santé, mais aussi, pourquoi pas, les aumôniers, d'ailleurs pas que les aumôniers musulmans, puisque les aumôniers catholiques, parce qu'ils sont plus nombreux aussi, rendent visite en individuel à peu importe le détenu, en fait, et sa confession. Et puis tous ceux qui gravitent finalement autour du détenu, l'idée c'est de croiser des informations pour connaître au mieux l'individu. Ça a été très difficile au début d'avoir le secteur médical, donc pour des raisons de déontologie, secret médical, etc. Mais aussi les travailleurs sociaux, donc en prison sont les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, en quoi c'était leur travail que de lutter contre la radicalisation. Donc si on définit comme lutter contre la violence ou lutter contre les processus de rupture, ça parle plus. Quand on parlait de radicalisation islamiste, évidemment, surtout en 2015 encore, déjà tout le monde voyait des radicaux partout. Donc on a remporté l'appel d'offres, on commence en 2015 dans un contexte très particulier. Donc tout le monde voit des radicaux partout dans la société, mais encore pire en prison. Donc c'était compliqué d'expliquer aux travailleurs sociaux qu'on avait besoin d'eux, tout simplement parce que nous étions persuadés, en tout cas l'équipe de Dialogue Citoyen, qui est une association qui a été créée par des sociologues de l'École des hautes études en sciences sociales, que je dirige depuis un an seulement, mais qui existe depuis 12 ans, avait décidé que... considérait que je sais plus ce que je disais, du coup excusez-moi, je suis fatiguée, pénitentiaire, voilà, qu'il fallait travailler sur les trajectoires, sur les parcours de vie, qu'on ne venait pas forcément quelqu'un d'aussi violent et d'adhérer même quelquefois à une idéologie qu'il ne connaissait pas toujours, et c'est vraiment la grande différence avec ce qu'on a pu faire en 2011 et en rencontrant des radicalisés, en tout cas des personnes incarcérées pour terrorisme. Et de ceux qu'on a pu rencontrer, les retours de Syrie, qu'il n'y avait pas quand on était sur le terrain avant, notamment, mais pas que, ceux aussi qui ont tenté de passer à l'acte sans partir, avec des profils très différents, et que peut-être le point commun, en tout cas, comment lutter contre la radicalisation en prison, même si je ne crois pas à la prévention dite primaire, parce qu'en prison, on est déjà dans un parcours de rupture, quel que soit l'effet qui nous conduit en prison, mais en tout cas de cibler les trajectoires de violence. À la fois des trajectoires de violence subies, souvent au sein de la famille. Je vous donne un exemple que tout le monde connaît, que je n'ai évidemment pas rencontré, c'est Mera. Mera, c'est le parcours typique qu'on retrouve beaucoup en prison, c'est-à-dire, on a dit que oui, c'était radicalisé en prison, oui, il est allé en prison, c'est pas la prison en elle-même qui l'a fait devenir ça. Quand on étudie sa trajectoire, c'est une trajectoire de violence d'abord subie au sein de la famille, une famille plutôt radicalisée vraisemblablement, puis une violence quand même assez forte avec l'absence d'un père, ça on retrouve aussi souvent. Et puis lui-même est rentré dans un processus décrochage scolaire, l'entrée dans la délinquance, et est lui-même devenu auteur de violence. Et cette violence-là, il l'a mise, on va dire, au service du sacré. Ça fait mieux que de la mettre au service à but lucratif, on va braquer pour avoir de l'argent, pour aller en Thaïlande et passer de bonnes vacances. Et c'est vrai qu'on a ces trajectoires, sincèrement, je ne sais plus combien de détenus depuis maintenant presque 10 ans, quand je faisais les allers-retours en prison, j'ai pu voir, mais c'est vraiment des trajectoires classiques de multirécidivistes, de rentrer dans la délinquance, etc. Et c'est aussi peut-être ce qui a faussé pas mal les choses quand on a dit que la prison était le premier lieu de radicalisation, parce que oui, un des deux frères Kouachi, et un seul d'ailleurs, pas les deux, était braqueur, avait été incarcéré, comme Koulibaly aussi, était braqueur, multirécidiviste, etc., Mera, Nemouche, certes, pourquoi c'était plus facile pour des gens qui effectivement étaient braqueurs, donc savent manier des armes? Ils ont déjà intériorisé cette violence, ils sont déjà violents. C'est beaucoup plus facile, me semble-t-il, pour un individu qui sait déjà manier des armes pour voler, tout simplement, pour voler de l'argent, etc., de la mettre au service d'une cause qui semble plus noble, où on donne un statut, où il y a une vraie projection, il y a un sens pour la vie, on choisit souvent des gens, effectivement, qui savent manier les armes. Et je reviens à la première étude parce que, justement, on ciblait les courtes peines. Les courtes peines étaient aussi des cibles pour les recruteurs, entre guillemets, parce que je ne sais pas si on peut vraiment les appeler comme ça, mais c'était des cibles parce que c'est des enfin, quelqu'un qui est condamné à 20 ans de prison, il a un temps très long, on va dire 15 ans avant de sortir, par chance 10 ans avant de sortir. Donc les multirécidivistes sont déjà extrêmement violents, jeunes, souvent, et puis font des allers-retours. Donc on a le temps de les, un peu les briefer, et le passage à l'acte à l'extérieur est plus rapide. Bref, je termine pour ne pas dépasser sur la recherche-action. Donc il fallait réactualiser l'outil de détection. Je vous ai dit, on a proposé cette méthode pluridisciplinaire qui aujourd'hui est toujours, en tout cas, à l'œuvre dans quasiment toutes les prisons qui accueillent ce public-là. C'est ce qu'on a appelé les CPE radicalisation. Alors on n'a rien inventé, on est parti de l'existant, c'est-à-dire des commission pluridisciplinaire unique qui existait pour d'autres thématiques, et on s'est dit bah, pourquoi pas autour de la radicalisation qui n'est pas consensus, parce que personne déjà ne pouvait donner la même définition de la radicalisation ou de ce qu'est-ce qu'un individu radicalisé. Donc autant qu'il y ait consensus, croisement d'informations, etc. Je sais que ça se maintient toujours au sein de l'administration pénitentiaire, même en milieu ouvert, ils font des choses, Farid en parlera mieux que moi. Et puis ensuite, on a ajouté l'évaluation de la personne parce que jusqu'à cet appel d'offres, il s'agissait avant tout de détecter, alors c'est vrai que l'administration a toujours bien détecté un individu qui était censé se radicaliser, on remontait l'information à l'administration centrale, donc l'administration pénitentiaire, qui faisait le lien avec la DGSI, donc les renseignements intérieurs. Mais il n'y avait pas forcément une tentative, soit de vérifier au moment où la personne a fait sa peine, de vérifier vraiment cette forme de radicalité qui demande du temps pour vérifier, et puis surtout une prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait finalement de ces individus-là ? Puisque même celui qui est condamné à perpétuité peut sortir. Ça, il n'y a pas une vraie perpétuité réelle en France. Donc automatiquement, on doit s'interroger sans cesse de la question de la réinsertion. Vous avez dit tout à l'heure, Elsa, qu'à l'avenir, des personnes détenues vont sortir. Ils sortent déjà. Il y en a déjà qui sont sortis. Je veux dire, c'est pas dans un an, c'est pas dans deux ans. Il y a déjà des personnes qui sont sorties. Et j'ai été en contact avec certains qui m'ont contacté, notamment un, et qui est resté 6 ans en prison. Lui, c'était un retour du Mali. Et le seul programme, alors il a eu de la chance, le seul programme qu'il a, en 6 ans hein, de détention, le seul programme qu'il a pu avoir, en tout cas atelier de réflexion, de débat, etc., c'était à la fois collectif et individuel, c'était lors de l'expérimentation, parce qu'il est passé dans la prison dans laquelle, dans une des deux prisons dans laquelle on faisait l'expérimentation. Donc c'est se poser aussi de à quoi sert la prison, c'est ce que je vous disais, à travers le prisme de la radicalisation, on doit s'interroger avant tout. Parce que ça correspond à peu près 500, je crois, détenus terroristes, c'est ça ?
À peu près. Les chiffres de l'année dernière.
Voilà, à peu près, ouais. Donc peut-être un peu plus, aux alentours de 500, ce qui est beaucoup. En 2010, c'était 90 seulement, islamistes radicaux incarcérés. Et puis, ils estiment à peu près 1000-1200 détenus de droit commun qui se seraient radicalisés. Qui se seraient, je le mets entre guillemets, parce que je vous dis, je pense que bon, selon le contexte, c'est très facile aussi de mettre une étiquette sur les individus. Donc en fait, il y avait pas forcément de prise en charge. Ça a bien changé hein, quand même depuis 2015, il y a quand même des choses. C'est loin d'être suffisant parce que j'entends encore que rares sont les détenus qui font des choses. Ce sont des détenus aussi qui sont particulièrement surveillés souvent, donc qui n'ont pas le droit à pas mal d'activités. Donc voilà, c'est très particulier, mais en tout cas, ça a beaucoup changé, je pense que... C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais voilà. Voilà ce qu'on a fait. On a mis en place un programme, non pas de contre-discours. On n'était pas du tout comme ça, parce que rien que le terme, ça met l'autre déjà en considérant que ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, alors que souvent, ils disent des choses tout à fait pertinentes sur le monde, sur la société. C'est ce qui nous dérangeait, nous, c'est évidemment de les sortir de la violence. C'est pas leur manière de penser, c'est... C'était très intéressant, on menait en place donc pas mal de débats sur 4 mois et demi, mais toujours en parallèle en travaillant l'individuel. On était en individuel, mais aussi en collectif, Et on avait fait le choix, ça n'a pas toujours plu à l'administration pénitentiaire, mais elle a compris par la suite, on voulait non pas mettre ensemble les mêmes profils, même âge, tous les retours de Syrie ensemble dans un groupe, parce que pour nous, ça nous semblait logique de créer un groupe hétérogène, d'essayer de mélanger, et ça nous a donné du, enfin, ça nous a demandé du temps avant de sélectionner les personnes qu'on allait intégrer dans le groupe, parce qu'il fallait à la fois des détenus plutôt leaders positifs, ça existe, hein, souvent plus âgés, qui essayent de se réinsérer, etc., il y en a quand même, et des détenus aussi de droit commun, qui sont extrêmement violents, et qui ont ces parcours hein, de vie, de, justement, ceux qui sont passés à l'acte ces dernières années, et puis évidemment, le public cible qui était donc détenu, association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Et pourquoi hétérogène? Tout simplement parce que, pour nous, lutter contre la radicalisation, c'est permettre la réflexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on soit dans une forme de radicalité non violente, ce que je vous disais, qui n'est pas en soi illégal, mais c'est pour moi une forme de radicalité qui met à mal le vivre ensemble, et c'est souvent des gens qui se mettent à part. Mais ce n'est pas illégal, hein. Je veux dire, ils ont le droit, ce n'est pas les seuls à faire ça, les juifs orthodoxes le font, on a aussi des catholiques orthodoxes qui le font, voilà. Mais en revanche, il y a cette absence de pouvoir réfléchir, le libre arbitre, il y a toujours, soit on va, mais pour tout, pour toute leur vie au quotidien, le religieux a une place extrêmement importante, même pour ceux qui ne maîtrisent pas ce religieux-là. Et pour, à notre sens, lutter contre la radicalisation, c'est permettre le débat, c'est accepter d'être soi tout en étant avec d'autres qui ne pensent pas comme nous, finalement. Donc voilà, l'idée du groupe hétérogène, c'était ça. Je m'arrête là, mais je pourrais faire suivre peut-être à Elsa un article qui résume la recherche action, qui est paru, il y a peut-être des juristes ici, dans la revue des juristes de l'Ouest, parce que c'était à Rennes. C'est 15 pages, mais ça résume bien la deuxième partie de la recherche action. Pour la première étude, je vous renvoie vraiment à Radicalisation de Farhad Khosrokhavar. Il est assez court et c'est intéressant sur le changement enfin, du paradigme de la question de la radicalisation en prison. Voilà. Donc
un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre quelques questions. Oui.
Moi, c'est juste pour le livre. Est-ce que vous pouvez nous épeler
Oui, le nom. Alors, c'est son nom d'écrivain. Figurez-vous que normalement, un écrivain prend un nom plus simple que son nom, son vrai nom. Lui, il a fait l'inverse. Voilà, alors c'est. Alors, je suis obligée de l'écrire à chaque fois parce que même moi, j'arrive pas. Alors, Farhad, avec un H entre le R et le A. Et ensuite, Khosrokhavar, écoutez bien. K-H-O-S-R-O-K-H-A-V-A-R. Voilà, je vous conseille à la fois l'Islam des jeunes, qui vous verrez date de 97, qui est assez court et est toujours d'actualité, alors qui ne parle pas de la radicalisation violente, mais de l'appropriation par une jeunesse de cette religiosité orthodoxe qui a un sens. C'est une jeunesse qui n'arrive plus à s'élever à travers l'universel républicain et qui trouve une égalité à travers ces mouvances justement radicales que sont le salafisme, le tablir, etc. Mais c'est vraiment très intéressant et c'est très accessible. Ensuite, je vous conseille aussi Radicalisation qui reprend la première étude. Donc c'est publié à Maison des sciences de l'homme. Enfin, voilà, Maison des sciences de l'homme. Et 2014, décembre 2014 ou novembre. Voilà. Et moi, je vous enverrai via Elsa les articles, même sur l'aumônerie, j'ai écrit. Donc. Voilà, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je vais allumer l'écran.
Oui.
Parlez.
Dans la,
je suis psychologue.
Oui. Je
peux
te
présenter,
c'est ça? C'est bien aussi, si vous pouvez vous présenter, j'aime bien savoir.
Madame Belfodil, psychologue. Moi, je voulais juste savoir.
Psychologue dans la pénitentiaire, non?
Pas du tout. Clinicienne avec des enfants, on n'a rien à voir, mais ce sujet m'intéresse beaucoup. Je voulais juste savoir si dans la recherche action, il y avait une phase en psy où on essayait de savoir justement quels étaient, je ne sais pas, les traits de personnalité de ces personnes-là, est-ce qu'il y avait des personnes antisociales, est-ce qu'il y avait des biais cognitifs d'interprétation d'informations, est-ce qu'il y avait une phase un peu...
Oui, alors justement, nous, on a commencé cette recherche action, je vous ai dit, en début 2015. Et l'idée, c'était de réunir tous les secteurs, mais c'est difficile avec le secteur de la santé, et ça se respecte, mais ils sont quand même venus. En revanche, du fait des attentats, fin 2015, l'administration pénitentiaire a décidé de recruter des binômes, ce qu'on appelle des binômes de soutien, des éducateurs et des psychologues. qui ne dépendaient pas, donc du coup les psychologues ne dépendaient pas du ministère de la Santé, mais de l'administration pénitentiaire, et effectivement ça permettait de rencontrer un individuel. D'ailleurs, après les unités dédiées qui avaient été créées un temps en mettant ensemble les mêmes individus, ça a été transformé en quartier d'évaluation. C'est pas toujours parfait, mais c'est mieux que rien. Donc, et là, notamment, participent ces binômes de soutien. Voilà, donc il y avait cette idée, en fait, de notre part, en vous disant qu'il fallait que ce soit pluridisciplinaire. Évidemment, tous ces regards très différents est toujours un plus, quoi, pour vraiment connaître au plus près l'individu et ne pas se tromper, parce que mettre une étiquette sur un individu qui est peut-être schizophrène, puisqu'il y a de plus en plus de malades mentaux en prison, c'est compliqué aussi. On peut l'expliquer autrement si on a une aide, effectivement, de spécialistes. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Juste, est-ce que vous pouvez répéter les chiffres des personnes qui sont sorties de prison ou qui sont...
Pas sorti, je ne peux pas vous dire, parce que il y en a, si c'est sûr, il y en a même, il est sorti, lui, donc du GIA, enfin, bon, bref, il y en a que, bon, la plupart que j'ai rencontrés ces dernières années ne sont pas sortis, beaucoup étant mandat de dépôt pour des affaires terreaux, ça peut durer 4 ans d'attente de jugement, donc beaucoup n'étaient pas encore sortis, mais certains, si, je suis au courant qu'ils sont sortis, parce qu'ils laissent quand même des messages assez sympathiques, c'est rassurant. Mais, les chiffres pour les sortants, je ne les ai pas. Et puis, les sortants, il y a ceux qui sont en aménagement de peine, il y a ceux, puis Farid vous parlera peut-être aussi de son travail sur vraiment les sortants. Mais il faut compter à peu près plus de 500 individus incarcérés pour des faits de terrorisme liés à l'islam radical, incarcérés. Donc, après, sans compter ceux qui sont en contrôle judiciaire. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas incarcérées, c'est-à-dire qui attendent leur jugement à l'extérieur. Oui. Qui sont libres, qui doivent vous pointer, etc. Ça, je n'ai pas les chiffres, mais incarcérés, il y a ces chiffres-là. Et à peu près une estimation de 1200 individus donc détenus de droit commun, donc qui sont en prison pour d'autres faits, qui seraient, mais entre guillemets, selon l'administration pénitentiaire, radicalisés. Voilà, c'est à peu près ces chiffres-là. Mais je pense que sur le site du CIPDR, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que vous pouvez l'avoir, comité interministériel, ou enfin c'est très facile. Vous avez radicalisation prison, vous aurez des chiffres sur Google, je pense.
Est-ce que vous pensez que c'est envisageable de mettre des dispositifs de préhension dans les écoles sans que pour autant ça ne gêne les personnes dans leur liberté de culte, enfin que à la fois prévenir les dangers de la radicalisation? Et en même temps, que les personnes qui pratiquent un islam radical,
qui sont pas... Alors, vous parlez des écoles, on est d'accord. Vous êtes professeur?
Non.
Vous êtes trois? Et vous, j'ai pas entendu?
Moi, je suis analyste.
Analyste, d'accord. Et vous, pardon?
Étudiante en droit.
D'accord. Alors, très bien de parler des écoles, parce que moi, je pense que il faut mettre des choses en place en prison. Dans les écoles, parce que je vous disais tout à l'heure, ça me semble juste paradoxal de mettre en place de la prévention dite primaire. On peut mettre en place la prévention secondaire en direction d'un public déjà fragilisé, cible un peu, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont des trajectoires de violence. On va mettre en place des programmes, on va dire, pour éviter qu'ils basculent, parce qu'ils ont plein de facteurs qui font que il y a tellement de risques qu'ils basculent. Ça, c'est ce qu'on appelle le secondaire. Et puis, il y a la prévention tertiaire, c'est-à-dire la sortie vraiment de la violence, qui sont généralement des individus qui sont incarcérés pour ces faits-là. En prison, je ne crois pas à la prévention primaire. En tout cas, pas dans les prisons françaises. Ça, c'est sûr. Et surtout pas en maison d'arrêt. Mais peut-être que Farid pense le contraire. Mais prison primaire, logiquement, on la met en place pour éviter que l'individu bascule. Ça arrive avant. Donc, l'école, effectivement, pour moi, est un lieu... parce que l'école est obligatoire au moins jusqu'à 16 ans, et qu'il fut un temps, je sais que c'est plus le cas, il y a mon fils dans la salle, je ne sais pas s'il écoute ou il dort, mais c'est comme le collège, et il fut un temps quand la famille était défaillante, l'école permettait aussi une ouverture d'esprit, parce qu'évidemment, on a des parents, ils nous imposent des choses, et puis un jour, soit on reproduit, soit on quitte, et l'école permettait cette ouverture d'esprit, logiquement. Donc des espaces de débat. C'est des espaces d'échange. Alors oui, il y a le professeur ou le maître et puis les élèves, mais je crois qu'il est fondamental, et il y a très longtemps que je le dis, qu'avant de taper sur les prisons, je pense qu'il faut, il faut vraiment que l'école fasse quelque chose. C'est la seule institution qui a pris les choses à bras-le-corps tardivement. Je veux dire, les premières actions de formation du ministère, mis en place par le ministère en direction des inspecteurs académiques, a eu lieu à partir de 2017. Je sais parce qu'on m'avait sollicité. 2017. Parce qu'effectivement, il y avait ce côté où, je crois qu'aussi, taper sur l'école, dire qu'il y a des choses qui se passent à l'école, on va avoir tous les syndicats sur le dos. Ce qui est moins le cas pour les prisons, parce que tout le monde s'en fout en réalité. Mais pour l'école, je suis, et ça commence à se faire. Mais parler du terrorisme, à un moment donné, c'était carrément interdit à l'école. Parler du fait religieux, c'est toujours compliqué pour certains profs au nom de la laïcité, alors qu'en rien, c'est contraire à la laïcité. Je veux dire, parler de la religion, ou, mais ce n'est pas qu'à l'école qu'on retrouve ce problème. Mais ça change. Moi, je suis persuadée qu'il faut absolument mettre en place des choses dès l'école. Ça, c'est, je le dis, je le répète. Ou même dans les centres de loisirs, centres jeunesse et services, etc. Ça commence, puisque d'ailleurs je suis depuis un an et demi sur 5 villes du 93 pour amener les collectivités territoriales à travailler sur cette question-là, sans paniquer tout le monde, sans stigmatiser aussi une ville, parce que c'est aussi le risque, mais en mettant en place des dispositifs et surtout en considérant cette thématique comme quand on parle du décrochage scolaire, quand on parle de la délinquance de droit commun, etc., etc. Il faut que ça devienne un peu un sujet, on va dire, classique. L'avenir, il faut juste du temps, mais voilà. Donc oui, il faut mettre en place des choses.
Et une autre question aussi.
Allez-y.
Je suppose que les groupes de réflexion dans les prisons, c'est pour les détenus qui sont volontaires.
Oui, il n'y a pas... Y a...
Et du coup, quelle proportion de détenus sont volontaires pour faire partie de ces groupes?
Non volontaires. J'ai pas compris.
Vous avez mené une expérience ponctuelle
oui.
Pour avoir un groupe de réflexion,
oui.
Etc. Parce que je suppose qu'on ne peut pas mener ce genre de groupe avec des élus qui ne donnent pas leur consentement.
Non, enfin après peut-être toi dans les quartiers t'en parleras, mais et effectivement il y a pas, c'est comme le soin, il n'y a pas d'obligation de soin quand on est incarcéré. De même, il n'y a pas de... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à faire adhérer dans un contexte comme 2015 des gens à un programme dit de déradicalisation. Alors on l'a appelé autrement, beaucoup plus positif, questionnement citoyen, engagement citoyen, mais on était très transparent sur ce qu'on était, ce qu'on faisait, etc. Ça, heureusement qu'on l'a été, c'est ce qui a permis de créer du lien. Mais évidemment que si on arrive, est-ce que vous... Non, on prend le temps, on a fait au moins 10 entretiens par détenu pour créer du lien, pour vraiment qu'il ait confiance, qu'il comprenne ce qu'on veut faire et pourquoi il doit être là, etc. Et après, les retours de Syrie nous couraient après, ils nous reconnaissaient. C'est ça qui était assez surprenant. Beaucoup de retours de Syrie étaient très demandeurs de ces espaces d'échange, en fait, de parole. En prison, enfin, à l'extérieur, c'est plus difficile et c'est d'où l'échec de Pontourny. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler du centre. C'était évidemment un échec voué d'avance si on allait prendre des gens qui sont peut-être signalés par leur famille comme radicalisés, mais qui ne sont pas sous contrainte judiciaire, et de leur dire, venez, vous habitez Lille, venez dans un centre pendant 10 mois, un centre de déradicalisation, le premier en France, donc évidemment médiatisé, personne ne vient. D'où l'échec, 2,5 millions d'euros, mais bon, ça c'est mon côté un peu... Voilà. Mais voilà, c'est évident. Mais en prison, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ça, le paradoxe, en fait. C'est que c'est beaucoup plus simple d'avoir, parce que déjà le public radicalisé, souvent il est là, et de les avoir, parce qu'en maison d'arrêt, il faut savoir qu'il y a très peu d'activités. Ils sont en surpopulation carcérale, il y a très peu d'activités. Et en fait, il y a de belles choses qui se passent. Nous, on n'a pas eu, sur les 4 programmes mis en place, de perdition. C'est-à-dire personne n'est sorti du programme. Alors qu'il y a eu plein d'attentats, dont certains se sont... su être fichés S parce que leur famille était en résidence surveillée, en pensant que c'était parce qu'ils participaient au programme. Malgré ça, ils sont restés. Et effectivement, ils auraient pu partir parce qu'il n'y avait pas d'obligation. Mais je crois que le travail de confiance, et Farid en parlera, parce qu'il a aussi suivi des personnes, et notamment à l'issue du programme, parce que c'était ça l'idée, on ne fait pas un programme 4 mois et demi, c'est sur un temps long, ça dépend des individus, et c'est tous ces partenaires qui sont vraiment utiles, et notamment Farid a accompagné un détenu qui effectivement était à fond dans l'idéologie, qui était parti depuis très longtemps, rien à voir directement avec Daesh, mais qui était beaucoup dans la religion, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et là, le travail qu'il a fait, grâce aussi à Eric, avec Eric, hein, un des binômes de soutien, enfin tout ce travail qui se fait, ça se fait sur un temps long, et surtout la confiance. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut... voilà. Donc oui, c'était sur la base du volontariat, mais au début, ils ne veulent pas. Mais on arrive à voilà, il y a des, vous verrez dans l'article que je vous enverrai, j'ai expliqué un peu succinctement la méthode utilisée, mais transparent. Hein, on n'a pas du tout été, on n'a pas menti sur nos intentions, etc. Voilà. Peut-être laisser la parole à Farid, parce que sinon...
Allez-y. Oui.
Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé d'arriver en retard. J'ai fait mon possible.
D'accord.
Donc, je me présente d'abord. Je suis Farid Green. Je suis aumônier de culte musulman référent à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Je suis aumônier régional adjoint. Et le rôle d'un aumônier musulman, d'abord, c'est d'accompagner les détenus dans leur cheminement de foi. Vous savez, qu'on soit juif, chrétien, musulman... on a le droit de pratiquer sa conscience, sa religion dans un milieu fermé ou ouvert. Et puisque la personne ne peut pas y aller à la synagogue, à l'église ou à la mosquée, la synagogue, l'église vient vers cette personne. Ça, c'est un droit. L'aumônier n'est pas censé, n'est pas formé et n'est pas censé démanteler l'appareil doctrinal des gens. L'objectif, c'est de les accompagner dans leur cheminement de foi, faire le travail d'écoute aussi, parce qu'il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de gens qui ont cette envie et de parler, de s'exprimer. Vous savez, la prison, c'est un endroit de détresse, de tristesse, de chagrin, de manque. Donc, on tend beaucoup l'oreille. Moi, au début, je croyais que c'était moi qui allais parler. Finalement, je me suis trouvé en train de faire ce travail d'écoute. On fait la pratique rituelle du vendredi, comme chez les chrétiens le dimanche, les fêtes religieuses, on accompagne les personnes aussi à l'enseignement religieux, les accompagner pendant le mois de Ramadan, leur fournir aussi des outils qui leur facilitent de pratiquer leur culte, comme les tapis de prière, les muscles, les Corans, les livres, etc. Donc voilà, l'aumônier n'est nullement, on ne lui demande pas de faire le travail de déradicaliser les gens, de déconstruire leur discours radical. Ce qui m'a amené à m'intéresser plutôt à ça, c'est d'abord j'ai vu que la religion dans laquelle j'appartiens a été usurpée par des groupes violents. Le Coran et tout a été usurpé, des choses horribles ont été faites en notre nom. J'ai commencé à m'intéresser à ça, et puis aussi la rencontre avec Wiza qui a confirmé finalement et que je suis un fervent croyant que la radicalisation, ça se traite dans une dimension pluridisciplinaire. C'est un processus multifactoriel et le traitement de la radicalisation se fait dans une dimension pluridisciplinaire. Donc voilà, on n'était pas censé bosser ensemble, on s'est trouvé, on a eu les mêmes cas ensemble, donc voilà, on s'est complémenté en quelque sorte, et on a eu un bon résultat par rapport à la personne que Wiza venait de décrire, qui s'est distanciée du discours radical. Après, je sais la question, comment peut-on savoir qu'une personne s'est sevrée ou bien s'est distanciée du discours radical? On pourrait répondre à cette question, si vous voulez, après. Donc... par la suite, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce domaine-là, le fait de comprendre pourquoi, et surtout, en restant sur ma discipline, mon volet, sur quel texte religieux, sur quelle référence ce discours radical s'appuie. Et Dieu sait, il y en a. Je commençais à m'intéresser petit à petit, et on commençait à découvrir des choses. Donc voilà, ça c'est la partie de mon travail au sein de la pénitentiaire dans le milieu fermé. J'ai travaillé aussi dans le dispositif RIF, recherche, intervention, des violences extrêmes, je pense. D'ailleurs, j'ai même une collègue et une amie parmi les présentes ici, et les présents, avec qui on a travaillé ensemble. Et actuellement, je travaille dans un autre dispositif qui prend en charge des personnes écrouées, judiciarisées pour fait de terrorisme en milieu ouvert. Des personnes qui sont en attente de jugement, ou bien des personnes qui ont été jugées et qui nous ont été orientées par une ordonnance judiciaire, par le juge. Le travail aussi consiste à faire c'est pluridisciplinaire. Donc on trouve un référent culturel, on appelle ça un médiateur interculturel, culturel et fait religieux, des psychologues, des éducateurs, des CIP, des conseillers d'insertion professionnelle, des assistants sociaux. Donc voilà, c'est une équipe qui entoure la personne avec de la référence, un numéro d'astreinte et tout, en cas où on essaye d'être là, d'être présent. Maintenant, je ne sais pas si je peux me permettre de parler d'un plan d'accompagnement sur fond religieux, histoire de distancier la personne du discours radical. Je ne sais pas si je voulais que je vous parle un petit peu de mon travail.
Bien sûr, bien sûr. Donc,
d'accord. Écoutez, comme c'est un processus, l'objectif, je vais vous dire l'objectif en deux mots, ça va peut-être vous choquer un petit peu, mais l'objectif autant que ministre de foi, quelqu'un qui représente la religion, c'est que ces personnes-là, je travaille bien sûr dans la pluridisciplinarité, mais l'objectif se résume en deux phrases, qu'il ne fasse plus de mal au nom de la religion, d'accord ? S'il fait du mal sous pulsion, s'il est énervé ou quoi que ce soit, c'est le travail du psychologue. Vous voyez, l'objectif, c'est qu'il ne fasse plus de mal au nom de la religion. Et puis le deuxième objectif, c'est qu'il se dit que finalement, il a actionné, il a fait ça pour rien, religieusement parlant. Parce que par l'échange, par le suivi, on essaye de lui montrer que, religieusement parlant, on ne lui demande pas de faire ça. Donc, il a fait ça pour rien. C'est qu'il, on ne va pas lui dire ça directement, mais qu'il constate qu'on le conscientise à ça, qu'il soit conscient de ça. Et franchement, c'est un sacré coup. Donc, la question de la radicalisation, beaucoup de personnes, on n'arrive pas à déterminer, les gens divergent par rapport à la définition de la radicalisation. Il y a des définitions assez simples comme le fait de vouloir imposer une idéologie par le biais de la force, les armes et l'intimidation. Le fait de vouloir imposer un mode de vie, une idéologie par la force, les armes ou l'intimidation. Ça pourrait prendre plusieurs formes. Je parle de la radicalisation judiciarisée, pour laquelle les personnes iront en prison ou bien ils seront inquiétés par la justice. C'est la commission ou la tentative de commission d'un acte violent au nom d'une idéologie. Pour ça, on est judiciarisé. Bon, on est inquiété par la justice. La justification de l'acte violent, le fait de parler favorablement de cet acte violent, comme dans la psychocrimino, on appelle ça la rationalisation du crime, donner des bonnes raisons et puis dire ça en public. Le fait d'assister l'auteur de cet acte aussi, l'aider, lui faciliter son acte, ça, on risque d'être judiciarisé. Donc le public qu'on reçoit, il a fait une ou deux ces définitions que je suis en train de vous dire. L'appartenance ou la tentative d'appartenance à un groupe violent, sur fond religieux, sur fond idéologique. Et aussi l'apologie de l'acte ou du groupe violent, le fait de relayer, faire les éloges, parler favorablement d'un groupe violent ou bien d'un acte terroriste violent. Donc il y a un plan d'accompagnement qui est fait sur la durée, qui est composé de plusieurs paliers, plusieurs étapes, où on doit respecter les étapes que j'ai appliquées que j'applique actuellement, que j'améliore, j'essaie d'améliorer, de rectifier, de corriger quand je peux. Donc voilà, il consiste à accompagner la personne dans différentes étapes. L'objectif, c'est de l'accompagner vers l'autonomie. Cette personne, on lui a dicté beaucoup. Elle était dans le mimétisme religieux qui l'a poussée à l'acte violent. L'objectif, c'est qu'elle puisse penser toute seule. C'est assez délicat, c'est assez subtil, parce qu'en même temps, on traite le texte religieux pour la personne qui représente un fondement de foi, mais l'objectif aussi, c'est pas de faire de lui un moindre musulman. Enfin, l'objectif, c'est qu'il ne soit pas moins musulman que ça. Donc, traiter la question violente sans toucher à sa conscience et à sa foi. Donc, avant ça, je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs magnétismes, ce que j'appelle les magnétismes religieux utilisés dans la sphère djihadiste. Quand on invite un jeune, il y a des aimants qui l'attirent. Donc, forcément, il y a des éléments, on l'attire pour qu'on puisse l'embrigader. La propagande djihadiste s'appuie sur ça. Parmi les éléments, les magnétismes religieux, c'est la promesse de la suprématie, ou bien l'hégémonie. C'est la promesse d'accorder un statut dominant conférant à une autorité incontestée. L'hégémonie consiste à monter sur le genre humain. Mais c'est bien de monter, d'évoluer, d'être au sommet. Mais dans l'idéologie djihadiste de Daesh et tout, quand je monte, il faudrait que l'autre descende. Être dans un pouvoir incontesté. Donc la suprématie, c'est comme faisaient aussi les nazis, on est un petit peu dans la même logique. C'est la même, on dirait, c'est qui leur a soufflé tous ça en même temps. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi la dignité, la promesse d'obtenir les réparations et les humiliations que subissent les musulmans. En Palestine et tout, bon, personne ne fait ça, ne fait rien. Regardez, venez vers nous et on va pouvoir panser vos blessures, réparer votre dignité. La pureté aussi, c'est parmi ce magnétisme religieux, en qualifiant d'entacheté tous les autres musulmans qui ne sont pas assez musulmans, pas assez purs, apostats, et toute personne qui ne s'inscrit pas dans ma mouvance, elle est forcément entachetée, elle n'est pas assez musulmane. Le salut aussi. Lors des événements eschatologiques, dans l'au-delà, etc., vous savez, quand le sauveur viendra, il ne va pas choisir n'importe qui, il ne va pas embarquer n'importe qui avec lui. Il choisira ce groupe-là. Nous avons les textes qui prouvent que le sauveur, Jésus, El Mahdi, quand il descendra, il faut être prêt. La terre qui est dans laquelle il va descendre, c'est Shem, c'est le Levant, c'est la Syrie. Donc, mieux vaut venir. On les attire aussi vers ça. Et les gens sont partis de France, où ils étaient très bien, d'Angleterre, des États-Unis, d'Allemagne, pour rejoindre une terre où ils vivaient beaucoup moins bien, afin de pouvoir rejoindre ce groupe. Donc, il y a le salut, et même dans les événements eschatologiques. La maîtrise. Vous savez, quand on s'engage dans un groupe comme ça, on n'a pas besoin d'un grand savoir. On a une vision binaire. C'est halal, haram, licite, illicite. On n'a pas besoin de philosopher, déduire des choses. Donc on leur promet aussi la maîtrise. Une chose qui a été faite par le prophète, elle est accordée, halal. Pas, non, donc voilà, il n'y a pas besoin de... C'est bon, y a le refus de toute altérité. Binaire. Le profit aussi, la promesse d'accéder à des privilèges. Femmes, argent, maison et armes aussi. Donc voilà avec quoi les attirer. Après aussi, vous savez, dans la sphère djihadiste, ceux qui ont travaillé aussi avec ces personnes-là, on ne trouve pas que des terroristes à l'image, le cliché qu'on a, un barbu avec des cheveux longs qui veut tuer tout le monde. Vous savez, la sphère djihadiste judiciarisée, elle est très large, c'est un éventail très large. On trouve un poseur de bombes, comme on trouve aussi quelqu'un qui a envoyé de l'argent à sa fille qui était en Syrie pour acheter du lait et qui a été judiciarisé parce que pour financement du terrorisme. Donc voilà, et entre les deux, c'est jamais les mêmes histoires. Il y a des axes, il y a des troncs communs, on va dire, mais c'est jamais la même histoire. Donc, on peut trouver, personnellement, j'ai rencontré des combattants avérés dont j'aurais entraîné des personnes qui voulaient actionner, des personnes radicalisées, obnubulées par la théorie du complot aussi. Voilà, tout est complotisé, tout, voilà. Et puis, d'eschatologie qui prennent aussi un changement universel par le djihad. Ils veulent changer le monde, mais cela se passe que par le djihad. Des jeunes aussi en plein adolescence qui véhiculent un discours radical par opposition à leur entourage. J'en ai vu des enfants kurdes, leur père, il est inscrit dans le... Voilà, il est membre du PKK. Et lui, il veut lui montrer, lui aussi, moi aussi, je suis un homme, je m'inscris avec Daesh. Comme l'exemple que tu disais parfois aussi, il y a la religiosité par opposition à la prison. La personne fait l'appel de la prière. Quand on lui dit, on te donne, et on a donné à tout le monde les horaires de prière, il n'y a pas besoin. Il dit, je fais ça parce que pour les faire chier, pour les embêter. Religiosité par opposition, tu vois. Aussi, parfois, des naïfs, bien intentionnés, mais très mal informés. Des gens qui croient vraiment faire du bien, aller aider la veuve et l'orphelin en Syrie, voilà. Voilà. Mais ils ont été, malheureusement, embrigadés. Des revenants aussi, désenchantés par l'utopie du califat. Contrairement à ce qui est répandu, un revenant, à quelqu'un qui est parti en Syrie, on lui a vendu de la lumière, et il est revenu par son propre chef. En matière de prise en charge, c'est plus facile de travailler avec lui qu'un velléitaire, quelqu'un qui est parti et à qui on a empêché de réaliser son rêve. Il y a le facteur de frustration. Donc on trouve des revenants désenchantés par l'utopie du califat, des velléitaires frustrés de n'avoir pas pu partir aussi, des auteurs d'actes terroristes motivés par un opportunisme banal, ou bien par l'effet du groupe, ou bien par pulsion affective. On trouve ça beaucoup aussi. Les personnes qui sont parties en Syrie, des filles, pour chercher son prince barbu. Ça existe, ça. Et puis des personnes aussi avec une pathologie psychiatrique ou sujettes à des traumatismes psychologiques. Il y a aussi ça. Donc, regardez, il y a des différents profils. Le magnétisme, avec quoi on attire, c'est tout un monde. Finalement, j'ai découvert tout un monde et j'en découvre encore. Il y a un plan d'accompagnement qui est, là je parle de ma discipline, qui est le religieux en quelque sorte, et le fait religieux, mais ma philosophie consiste à ne pas travailler tout seul. Je suis toujours en contact, ou bien en équipe, avec une équipe pluridisciplinaire, et parfois pluridisciplinaire, en contact direct avec l'intéressé, le sujet, ou bien aussi quelqu'un qui peut nous conseiller, comme Ouisa aussi, qui est dans la sociologie, qui, par son expérience et tout, qui peut nous enrichir avec des connaissances, des informations qui nous mettent un petit peu sur le chemin. Donc, ça va être... J'ai combien de temps à peu près, s'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que ça va être là?
C'est bon, hein, ça me paraît. Oui, oui. Vous pouvez continuer. Oui, hein.
D'accord.
C'est bien concret.
D'accord. Oui. Donc, on va dire... Oui. Dans le milieu ouvert, aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et je rejoins aussi ce qu'avait dit Ouisa, l'adhésion... À la prise en charge de la radicalisation en prison se fait par adhésion volontaire. La personne, on ne la force pas. Personne ne peut la forcer. Donc, ça donne plus de billes à la personne qui la prenne en charge. Par contre, dans le milieu ouvert, je vous assure, il n'y a plus les contraintes de la détention, d'accord ? On a les moyens d'aller sur un McCafé, discuter et tout, on est bien, mais la personne est envoyée par le juge. Donc, avant de commencer de travailler avec elle, il faut créer l'adhésion et faire en sorte à ce que l'obligation devienne une adhésion. Donc voilà, c'est tout le paradoxe. En prison, celui qui vient, c'est qu'il est en phase de questionnement. Il a besoin de réponses. Il veut de l'aide. On lui a proposé le programme, il l'a intéressé et là, il s'inscrit dans ce programme. Donc c'est plus facile. Autant que si jamais... suis jamais content de voir une personne en prison, mais sur ce volet-là, sur ce plan-là, voilà, ça se passe comme ça. Et puis, voilà. Puis, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui adhère volontairement. Et en général, c'est les personnes que j'ai suivies en prison qui sortent, que je vois dans le milieu ouvert. Et là, c'est encore... C'est génial, c'est parfait. Donc, est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Donc, avant de prendre en charge une personne, il y a, donc je dis, je ne pars pas à découvert, il y a un plan d'accompagnement de différentes étapes, paliers, ne pas franchir les étapes, une étape sans passer par l'autre, etc. Et puis, il y a des éléments nécessaires à la préparation de la prise en charge. La connaissance des faits reprochés à la personne, voire pour laquelle elle a été condamnée, pour commencer à déterminer sur quoi je travaille. Quelqu'un qui est parti en série, par exemple, je vais traiter à peu près la question de la hijra, le voyage saint, l'émigration sainte et le djihad. À peu près, je sais, quelqu'un qui veut tuer des non-musulmans, qui a un rapport avec malsain ou bien pas bien avec les non-musulmans, je travaille une autre thématique. Donc connaître les faits qui sont reprochés, c'est très important. Deuxième point, je me renseigne auprès des SPIP, des surveillants et tout, quelle est sa relation avec ses pairs en détention? Il s'inscrit dans quel groupe? Est-ce qu'il traîne toujours avec les terreaux? Est-ce qu'il est tout seul? C'est important. Parce que aussi, dans l'embrigadement, on a cette image qu'il y a une personne qui embrigade les autres. Daesh a réussi à démocratiser la radicalisation. En fait, il y a cette dimension d'embrigadement mutuel. Je t'embrigade, tu m'embrigades. Ah, voilà, l'autre, etc. Voilà, c'est comme ça. C'est pas avant. En plus, Daesh, vu la notion du territoire, elle acceptait n'importe qui. Tout le monde est candidat. Al-Qaïda, non, pas forcément. Ils sont élitistes. Il se pourrait qu'on fasse un entraînement dans un camp de l'Al-Qaïda. 3 mois après, ils disent, on ne vous prend pas. Donc, non, vous n'avez pas le profil. La dimension du territoire a fait en sorte que Daesh prenne musulmans, pas musulmans, c'est pas de la stigmatisation, quoi que ce soit. Même des handicapés, des déficients mentaux. Parce qu'elle avait besoin de la chair à canon. Envoyer des gens et puis remplir le territoire. Ils ont misé sur la qualité. Contrairement à Al-Qaïda qui misait sur ils ont misé sur la quantité plutôt que de la qualité. Donc aussi l'historique de la pratique religieuse et la comparer avec l'actuel. Comment avant l'incarcération et maintenant, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il est dans une pratique rigoriste ou pas? Oui. J'allais dire que la prise en charge doit se faire en individuel afin de conjurer l'effet du groupe. Je tire ça d'une expérience. Lors des unités dédiées, quand j'ai participé, bon, j'étais un peu plus jeune que ça.
Mais peut-être les yeux. C'est pas si mieux. Oui. Unité dédiée, donc c'était le rassemblement d'individus incarcérés pour ces faits-là. Hein. Ça, voilà.
Voilà. Donc j'étais enthousiaste. Et premier prêche du vendredi, la peine de l'apostasie, démantèlement. Et j'ai protégé bien mon sujet, bien... Voilà, les gars, en groupe, je me suis dit, il suffit de leur dire ce que je pensais être la vérité, en se basant sur leur référence, et voilà, ça a marché. Enfin, et ça va marcher plutôt. Là, j'ai vu des têtes tirer des tranches assez bizarres, et puis le chef est venu me voir pour me dire non. Est-ce que tu peux nous éviter ce genre de sujet, s'il te plaît? Voilà. Et puis, si toutefois ça se répète, tu n'auras plus personne. Et finalement, il a tenu sa promesse. Par la suite, je n'ai eu personne. Et finalement, j'avais compris que la prise en charge ne se fait pas en groupe afin de conjurer son effet. Par la suite aussi, par l'expérience, à force de faire des entretiens, et puis sélectionner les personnes qui se sont distanciées, voire sevrées du discours radical, on peut constituer un groupe, ce qu'on appelle le principe du père aidant. Et là, le groupe devient un élément, un socle favorable pour se distancier, parce que voilà, se distancier davantage du discours radical. Donc, il y a différentes étapes. En entretien individuel, d'abord, observation et l'évaluation. Aborder avec la personne suivie quelques thèmes religieux, parfois de base, afin d'évaluer ses connaissances, tant sur le plan qualitatif et quantitatif. Où est-ce qu'il a appris, etc., histoire d'avoir à peu près sa mouvance. Mais en général, on ne va pas trop loin. On sait à peu près la mouvance Daesh, Qaïda, Boko Haram. J'ai pas encore eu affaire à un chiite ou un soufi, vous voyez. Donc voilà. Mais c'est bien aussi de savoir aussi, oui, les personnes issues d'Al-Qaïda, ils sont plus instruits, plus calmes. Et je vous dire, c'est des terreaux parfois avérés et qui défendent une cause. Contrairement à ceux de Daesh, parfois, qui sont beaucoup aussi dans la mentalité moutonnière. Le mimétisme religieux, ils suivent. Et je vous assure que c'est vrai. Après, on peut trouver des exceptions, des gens qui sortent du lot. Repérer aussi les vecteurs religieux ayant amené cette personne à se radicaliser. Donc voilà, j'avais dit ça, il s'agit en général de la mouvance salafo-wahhabite. Cette mouvance étant constituée de plusieurs panels, comme l'obligation de la hijra, l'établissement de la califa, l'eschatologie, rapport avec le non-musulman, le statut de la femme, rejet de la société occidentale. L'idéologie radicale est constituée de plusieurs panels. Et la personne radicalisée, parfois, elle est imprégnée plus par un, deux, trois panels, plus que d'autres. Vous voyez, il y en a qui sont... Voilà, focaliser la création du califat. La création du califat. En fait, il résume tout l'islam sur la création d'un État. Et puis, il résume la création d'un État, qui est très complexe, hein, avoir un État, c'est très complexe, sur l'application des peines corporelles. Couper les mains, fouetter les gens, lapidation, etc. Autrement dit, j'applique les peines corporelles, je constitue un État, j'applique la religion musulmane. Donc, il y a ce travail de réduction, un cercle dans un cercle dans un cercle. Aussi, il est essentiel de maîtriser les textes, connaître si leur littérature, la lire, la consulter et être à jour. Aussi, très important de savoir s'il s'agit d'un embrigadement relationnel ou idéologique. L'interférence et la proportion de chacun. Je vous ai dit tout à l'heure que parfois aussi il y a des actions terroristes qui ont été faites par pulsion affective. Et même l'affaire des bonbons de gaz qui a été faite, voilà, il y a une grande partie de la motivation qui a motivé ces personnes-là, parce que, voilà, une personne qui était amoureuse de quelqu'un, qui s'est avérée une fille, qui avait maquillé sa voix pendant des mois, et qui l'a amenée à actionner. N'empêche qu'il y avait un fond d'idéologie radicale, mais le vecteur principal, c'était un embrigadement relationnel. Donc là, on est dans l'évaluation, hein. Maintenant, très important, c'est l'élaboration d'un référentiel commun, difficilement contestable. On va discuter, on va parler, on va évoquer les panels. Il est important d'élaborer un référentiel commun. Si toutefois on n'est pas d'accord, on y revient. On y revient vers ce référentiel commun. D'accord ? Ce référentiel, je suis un ministre de culte, donc c'est le Coran. J'ai mis aussi la tradition prophétique pour ne pas heurter, parce que dans la formation, j'ai fait une formation à des aumôniers. J'allais dire, je ne m'appuie pas trop sur ça, sur la tradition prophétique, qui a été écrite 200 ans après la mort du prophète. Donc il y avait la place pour mettre tout, dire et faire dire le prophète de tout et n'importe quoi. Et croyez-moi, tous les panels issus de la radicalisation s'appuient sur la tradition prophétique. Et les générations saintes. Je vous dis, par exemple, la lapidation n'existe pas dans le Coran, le livre primaire de la religion musulmane. Elle n'existe pas. Vous voyez ? Donc, on s'appuie sur... Et comme...
Peut-être dire ce que c'est que tradition prophétique. Je ne sais pas si tout le monde sait. Si, peut-être.
La tradition prophétique, tout ce qui a été noté, vrai ou faux, hein, du comportement, des dires, des gestes du prophète. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sunna. Après, la sunna, il faut dire aussi qu'elle a été transcrite 200 ans après la mort du prophète. La porte était ouverte dans un climat de conflit et tout. La porte était ouverte pour faire pour faire dire, écrire tout et n'importe quoi. Donc, ce référentiel commun, c'est en premier lieu, c'est le Coran, et puis les postulats fondamentaux. Des choses où même un non musulman, je pourrais m'entendre avec un non musulman. Un Coréen du Nord, il sait à peu près le sens de la justice. De mentir n'est pas bien. La logique aussi, les postulats fondamentaux sur lesquels on se réfère en cas de si on n'est pas d'accord. Donc voilà, valeur universelle, la logique, le bon sens aussi. Donc c'est ça qui constitue le... On se met d'accord un peu sur ça. Ça peut prendre des séances et des séances. Après, j'ai fait mon évaluation. Je sais à peu près à quel mouvance appartient cette personne. On a élaboré un référentiel commun. On est d'accord sur quoi on se réfère en cas de différence. Maintenant, on passe à l'attaque. Relever les contradictions et les incohérences qui se trouvent dans l'idéologie radicale afin de susciter auprès du suivi la notion du doute et du questionnement. Cette idéologie se présente comme infaillible. Infaillible. Elle vient du ciel. C'est la vérité extrême. Je vous assure, il suffit de faire tomber le premier domino et les autres viennent plus facilement. Vous voyez à l'image, si vous demandez à un peintre de vous faire votre appartement, vous voyez le premier défaut, vous allez chercher le deuxième. C'est à peu près comme ça. Donc, et comme elle se présente comme un infaillible, il suffit de faire tomber le premier domino et ça se suit. Donc, voilà, afin de susciter auprès de la personne le sens, la notion du doute et du questionnement. Après aussi, vous savez, en même temps, la personne doute. Elle a peur pour sa foi. Donc, vous savez, quand on est en mutation intellectuelle, on est en train de passer à quelque chose, on a peur. Et en plus, l'idéologie radicale n'encourage pas trop, voire elle interdit à se poser des questions. On ne pose pas des questions, c'est un signe de manque de foi. Mais pour assurer la personne, même dans le Coran, il y a des passages où les anges questionnent Dieu, lui demandent des comptes. Pourquoi tu as créé l'homme ? Alors qu'il va semer la corruption, va faire couler le sang au flot sur terre. Et Dieu répond. Des prophètes ont demandé de poser des questions à Dieu. Donc poser des questions, au contraire, ça peut c'est être là pour renforcer la foi. Donc en même temps, on fait ce travail sur l'intellectuel, en même temps, en tant que ministre de culte, j'essaie de renforcer ce qu'ils sont en train de casser en quelque sorte, vous voyez ? Le mot « question » et ses dérivés a été mentionné 129 fois dans le Coran. Donc pour un seul livre, le mot « question » mentionné 129 fois, c'est que ce n'est pas un péché de poser des questions. Vous voyez, la personne, ça la rassure quand elle entend ça. Donc, après, on essaye de l'accompagner vers la notion du doute et du questionnement en citant les incohérences et les contradictions qui se trouvent dans cette idéologie, et Dieu sait combien il y en a, aussi accompagner la personne. Le but, ce n'est pas d'être son nouveau cheikh, son nouveau gourou, l'accompagner à réfléchir, se mettre à la même ligne que lui, l'accompagner à la proscription de toute lecture décontextualisante des textes religieux. Vous savez, en coupe, combattez ceux qui ont mécru, ce verset existe, oui. Mais ils ne leur disent pas ce qu'il y a avant et après. On ne les sensibilise pas aussi à l'historicité du texte. Dans quel contexte il a été révélé ? Le Coran, il a une dimension holistique aussi. Il faut voir, par exemple, pour avoir la définition d'un mot, il faut le chercher dans ses différents versets, dans tout le Coran, pour avoir ce sens-là. Daesh a fait ce travail intellectuel et en bridant tous ses outils. Donc, on essaie de sensibiliser à mettre à la disposition des personnes tout ça. Vous voyez ? Ne jamais aussi laisser la personne face à ces questions afin de réduire le champ d'action des rabatteurs dans la promenade de la prison, par exemple. Parce que je me trouve aussi parfois à être en débat avec un enrôleur que je ne connais pas à travers une personne qui est entre nous. Voilà ce qu'ils me disent en premier lieu. Je réponds. Ils lui disent, ils rapportent, ils relaient. Donc voilà, pour réduire le champ d'action des rabatteurs, voilà, il faut être là. Oui, comme j'avais dit, la mutation intellectuelle s'accompagne souvent par de l'anxiété et de l'appréhension. Donc il est nécessaire de rappeler à la personne aussi que l'objectif de cet accompagnement n'est pas de reléguer sa voix, sa foi, ni de cantonner sa religion. C'est plutôt vers l'accompagner vers une autonomie intellectuelle. Et la proscription aussi de tout mimétisme religieux. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions?
Et dites-moi. Sur le répétement de la promesse, j'ai pas trop suivi.
Sur? Sur?
Le répétement dans la promesse.
À ne pas laisser la personne sans réponse afin de réduire le champ d'action des rabatteurs et des enrôleurs en prison.
Mais ben, comment ça se présente
en fait? En fait, essayez de lui donner aussi des réponses. Parce que si la nature n'aime pas le vide, et un radicalisé, plus expérimenté, pourrait lui donner une réponse sur ses questionnements. Ou bien, je n'ai pas compris la question.
Oui, enfin, je me suis peut-être mal exprimée. Ça veut dire que pendant la promenade, par exemple, il y a des personnes qui vous posent des questions de...
Non, je n'ai pas le droit à la promenade, ce n'est pas un jardin, ce n'est pas un parc. La promenade au sein de la prison. Les radicalisés ou les enrôleurs s'approchent des personnes fragiles, plus ou moins. Non, non, je ne suis pas présent. Non, 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 non.
Il n'est pas prisonnier.
Non, non, non.
C'est pendant la promenade, les détenus vont parler entre eux.
Ça peut être la promenade, ça peut être un...
La douche, ça peut être...
La douche, ça peut être
l'activité, le sport.
Voilà, tout lieu où il y a plusieurs détenus, en fait.
Oui.
Les exemple, la promenade.
Oui, oui.
Là, il y avait une question.
Il y avait juste un point. Et peut-être j'avais pas fait attention, vous parliez des profils, et un des profils c'était les salafis wahhabites. Et on l'a pas assez parlé ça peut-être.
D'accord, non, en fait, c'est pas les. En fait, j'ai parlé de la catégorie des salafis wahhabites. Pour l'instant, la radicalisation islamiste en France, en général, elle est issue du salafis wahhabite. On trouve le salafisme. Durant l'histoire, est passé par trois étapes. On appelle ça le salafisme premier, c'est le hanbalisme. À peu près, en Égypte, c'est 2e siècle, 3e siècle, ça fait à peu près 9e siècle. Je veux dire, après la révélation de l'islam, 3 siècles. Le premier salafisme, le deuxième, il est arrivé, le premier, par Ahmed ibn Hanbal. Le deuxième, c'est Ibn Taymiyyah, qui a redonné vie au patrimoine de Ahmed ibn Hanbal.
Une bonne référence d'ailleurs.
Du salafisme. Oui. Et le troisième, Dieu, pire qu'un prophète pour eux. C'est noté. Parfois, je me suis trouvé dans des discussions, je dis voilà ce que le Coran dit. Il me dit mais Ibn Taymiyyah, il a dit ça. Et le troisième, c'est le wahhabisme. Le dernier, le plus récent.
On ne parle bien sûr jamais des salafistes Mohamed Abdou.
Non, Mohamed Abdou, oui. S'ils écoutaient Mohamed Abdou, ce serait génial. Mais parce que.
Excusez-moi, j'étais juste curieuse. Est-ce qu'ils ont déjà entendu les prénoms, les noms des salafistes de la Nahda?
De la Nahda?
La plupart,
c'est pas tout le monde. Mais il y en a qui ont beaucoup de connaissances, comme la personne à qui on a suivi en commun. Cette personne qui est très instruite, qui est très intelligente, qui
a
est...
qui a appris l'arabe, qui a voyagé seul.
Voilà, c'est quelqu'un... C'est un suivi qui nous a marqué. Hein, oui, jusqu'à présent, j'ai vu défiler des centaines de personnes. Oui, il peut. Il connaît Jamal al-Din al-Afrani. Azeddin al-Khatib, il connaît tout le monde, tout ce qu'il y a eu.
C'est pas le cas de tout le monde,
ouais,
quand même.
Mais même
les radicaux en prison ne connaissent pas autrement.
Non, bien sûr. C'est pour ça que j'ai insisté sur le wahhabo-salafiste.
Oui,
salafisme ou salafo-wahhabisme. Plutôt ça. Vous voyez? Donc voilà. Donc en France, on a affaire surtout à ça. Il y a aussi le mouvement frériste. Je n'ai pas rencontré des personnes judiciarisées, fréristes et tout. En fait, la différence entre les frères musulmans et les salafs, en fait, c'est une radicalisation, les frères musulmans, radicalisation par adhésion aux différentes structures de la société. il faut que les musulmans soient médecins et tout, dans les postes clés. Et salaf, c'est radicalisation par rupture. Vous voyez ? Voilà.
C'est bien organisé aussi, les frères musulmans.
Justement, par adhésion aux appareils de l'État, s'il le faut. Il mettrait bien, oui, il mettrait bien un ministre, oui, il mettrait bien un ministre et tout par adhésion, oui, pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Les deux ont objectif du califat.
Oui, c'est vrai.
Le premier par adhésion, les deuxièmes par la rupture.
On s'occupe pas de la politique, on s'en moque, mais en fait, bon, tout est politique puisque.
Bonjour. Juste, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît.
Ah oui, je croyais que c'était madame qui parlait, c'est pour ça que je vous regardais et je n'entendais pas. Ah oui, c'est là.
Je suis étudiante en intelligence stratégique, gestion de crise et droit international. J'aurais voulu savoir justement si le plan d'accompagnement qui est basé sur le volontariat, est-ce que ça ne créerait pas deux groupes au niveau des radicalisés, on va dire, qui va amener ceux qui ne sont pas volontaires à s'enfoncer dans la radicalisation et à créer des risques sécuritaires pour ceux qui sont volontaires et qui vont justement dans les promenades, les
couches. D'accord. Permettez que je vous réponde après à cette question, parce que voilà, c'est exactement ce qu'il y a dans mon exposé. Et la deuxième question ?
Du coup, c'était une double, la
réponse. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ? Donc voilà. En suivant ces étapes, la personne est censée se distancer du discours radical. En suivant ces paliers-là. Normalement, quand on arrive à mettre, quand il assimile les outils qu'on lui a donnés, quand les lectures décontextualisantes, la notion du doute et l'accompagnement, elle est censée se distancier du discours radical. Maintenant, il va falloir qu'on s'assure qu'on soit sûr, ou bien qu'on a une idée. On ne peut pas dire que... Voilà. Qu'on a une idée si cette personne s'est distanciée du discours radical ou pas. D'accord ? Il y a une expression que je répète souvent, c'est que le jihad au test n'existe pas. On ne peut pas souffler dans un ballon pour dire, voilà, vous êtes radicalisé ou pas. Non, on ne peut pas faire une prise de sang. C'est pas possible. Mais il y a un élément d'indicateur qui peuvent nous montrer, nous donner une idée comme quoi cette personne s'est distanciée du discours radical, s'est déradicalisée, ou bien pas, s'est sevrée du discours radical, carrément. Parmi lesquels, le fait de solliciter à rencontrer un aumônier ou un médiateur du fait religieux en détention, sachant que ce dernier intervient auprès de l'institution. Vous savez, l'institution, c'est l'ennemi. Mais le fait de demander de rencontrer un aumônier, c'est déjà pas mal. Parce que Daesh nous présente comme des pas assez musulmans, voire des apostats, des kafirs, des collaborateurs. Donc voilà, des personnes. Le fait de demander, c'est déjà un indicateur parmi d'autres. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez ? La deuxième des choses, demander un suivi, le suivi de l'aumônier, après le premier entretien ou bien après l'échange. Parce qu'il y a il y en a ceux qui nous demandent un entretien pour nous discréditer. D'accord ? Voilà, l'entretien, ce n'est pas d'être suivi. Je vais le discréditer. Il y en a qui veulent savoir, ils ne savent pas, ils sont en train, oui, non, est-ce que je fais pas. Il y en a qui veulent l'enfermement, etc. Vous savez, le confinement, ils se posent des questions. Après, l'administration nous connaisse et puis il l'oriente un petit peu vers nous. Oui, notre intervention se fait par un courrier écrit de la personne. On ne peut pas aller voir la personne si elle n'a pas préalablement fait une demande. Sinon, c'est du prosélytisme qui est interdit. Donc, demander le suivi de l'aumônier après les premiers échanges, les premières rencontres, porter de l'intérêt aux échanges, en particulier au sujet de controverses. Parce qu'il y en a, dès lors qu'on commence à parler des sujets de controverse, califat, oh non, ça y est, il se braque, il ne vient pas. Dès lors qu'il commence, donc voilà, encore une fois, c'est des étapes, il est en train de passer des paliers. On a un groupe qui commence à se rétrécir petit à petit, mais voilà, encore une fois, il faut miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Donc, porter de l'intérêt, au sujet de controverses. Le changement d'apparence aussi, c'est parmi les indicateurs. Barbe fournie qui devient taillée, bien coiffée aussi. Le look de Daesh qui commence à disparaître. Les sourcils aussi auprès des femmes, parce que j'interviens aussi auprès des femmes. Daesh menace par des textes que toute personne, toute femme qui touche à ses sourcils, etc., elle risque la malédiction, carrément.
Les salafistes, être, aussi, oui, hein,
être banni dans l'au-delà, etc. Et puis, dès lors qu'on on commence à exprimer son désengagement, déjà physique, par rapport à ces personnes-là. La tenue vestimentaire et tout. Un élément très important, la diffusion d'une partie ou de tout le contenu des échanges avec l'aumônier ou le médiateur du fait religieux auprès des détenus écroués pour fait de terrorisme. Dès lors qu'ils commencent à relayer ce que on s'est dit aux autres, voilà, en fait, vous nous avez dit ça, mais en fait, regarde, ça tient. Ils commencent à relayer, s'exposer aussi, pour vous répondre, madame, à d'éventuelles représailles. Oui, il y en a un, voilà, qui interdisent, non, faut pas aller le voir, etc., il va te changer ta harida, ta doctrine et tout, suite au changement remarqué par ses pairs. L'apparition, constitution de deux groupes au sein de la détention, des pros et des anti-aumôniers. C'est pour ça aussi, oui, il peut y avoir des représailles. Beaucoup de détenus refusent de descendre en promenade pour ne pas se mélanger avec les autres. Et d'autres aussi, c'est arrivé à la MAF de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, des femmes qui demandent aussi de changer de lieu de promenade ou de temps de promenade. Je ne voudrais pas, oui, je sors en promenade, mais pas avec eux. Donc de 14 à 16, voilà, je passerai après ou avant, le matin, etc. Ou bien la promenade travailleur. Inciter aussi, un élément très important, quand la personne suivie, elle incite, elle encourage ses co-détenus écroués pour faits de terrorisme à rencontrer les aumôniers. Là, limite, la personne oriente ses co-détenus vers moi. Tu verras, c'est bien et tout. Tu verras, il va pouvoir te répondre. Vous voyez ? Donc, relayer.
Est-ce que ça peut pas être une stratégie aussi en se disant, bon, c'est bientôt ton procès, finalement, si tu vas voir l'aumônier.
Très bien.
Si tu vois, ça peut être aussi une stratégie pour certains.
Il se pourrait que ce soit une stratégie, seulement il y a une chose. Il n'y a pas d'enjeu à me rencontrer. Je ne fais pas de rapport, pas d'écrit. Il y a le secret professionnel. Il ne risque rien. J'ai témoigné. J'ai témoigné lors d'un procès, mais je ne savais pas que j'allais témoigner. Vu la spécificité de l'affaire, j'ai reçu une convocation, je n'avais pas le choix. Donc, mais en général, je ne rencontre pas le juge, ni le procureur, il n'y a pas d'enjeu. Oui, bien sûr, et puis je peux refuser parce qu'il y a le secret professionnel. Donc, elle n'a pas... Mieux vaut pour elle qu'elle reste radicalisée, hein, parce que je vais lui faire perdre 100 ans et je vais lui dire des choses qui ne lui plaisent pas. Donc il n'y a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est si elle veut avancer, il y a un moyen. Oui, difficulté à supporter l'incarcération suite à la disparition de l'agent consolant. La personne, au début, elle a fait quelque chose pour Dieu. Donc la peine qu'elle est en train de subir, ben, j'ai fait ça pour Dieu, c'est pas grave. Ahmed ibn Hanbal, le premier ténor du salafisme, a subi la prison. Ibn Taymiyyah est mort en prison. Donc il se dit, je suis dans le cheminement normal. Mais dès lors qu'il commence à supporter mal l'incarcération, là, la disparition de l'agent consolant, il n'y a rien qui le console. J'ai fait ça pour rien. Vous voyez ? Donc, à savoir la cause pour laquelle il militait, il pouvait donner un sens à sa peine. Maintenant, il n'y a plus de sens à sa peine. Là, la personne, ça y est, j'ai fait ça pour rien finalement. Donc c'est un indicateur, malheureusement, qui montre que la personne, c'est... Parce qu'il y en a qui disent, oui, j'ai fait ça pour Dieu, je ne veux pas prendre d'avocat, etc., etc. Il donne un sens à sa peine, et parfois pendant des années. Et on a vu des détenus, si on leur proposait de sortir et de changer, ils disent, non, je reste là où je suis. Voilà, parce que, voilà, ils croient à son...
Il y en a un d'Action Directe, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec l'islamisme et qui est une mouvance radicale d'extrême-gauche. Il est toujours en prison.
Et oui.
Depuis plus de 30 ans. Parce oui. qu'il avait pris perpétuité, mais il avait le droit de sortir, comme d'autres d'Action Directe, sauf que lui n'a pas voulu.
Oui.
Il devait renoncer à ce prosélytisme, etc., mais ça lui donnait un statut d'être en prison. Enfin, voilà, c'était juste...
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Donc ça, sur le plan religieux. Il y a aussi d'autres perspectives, mais non exhaustives, de distanciation du discours radical qui se sont fait des pratiques, dont le tas. Par exemple, le principe de réciprocité. J'ai rencontré un jeune d'origine kurde, qui était impliqué dans un attentat grave à Marseille. Au début, quand je l'ai rencontré, c'était un mineur, il était dans le quartier mineur. Quand je l'ai rencontré au début, quand il parlait de Baghdadi ou l'Adnani, il disait Hafidahullah, que Dieu le protège. Chaque fois, que Dieu le protège. Baghdadi, etc. Voilà, c'était très poli, très correct, à l'écoute, intelligent, il donnait bien ses arguments. Je me souviens, une fois, je l'attendais avec un autre collègue dans la cellule, il revenait de l'école. Donc voilà, il était content de nous voir et tout, parce que voilà, c'est la prison, c'est toujours bien de parler et tout. Et voilà, je lui ai dit, ça va, tu reviens de l'école? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu fais le sport en fait? Il m'a dit, oui, t'as le droit au téléphone pour parler avec tes parents? Oui. Il vient te voir de Marseille? Oui. Et tu continues du halal? Il m'a dit oui. Et j'ai sorti plusieurs trucs qu'il fait positif dans la prison. Je lui ai dit, je voulais savoir, on va imaginer que Daesh a gagné et un chrétien ou un juif a commis la même chose au califat. Quel sera son sort? Il m'a dit, la combinaison orange. Hein. Vous voyez. Je lui ai dit, est-ce qu'on on paierait un imam pour venir le voir? Il m'a dit, jamais. Non, est-ce qu'on paierait un rabbin ou un curé ou pour venir? Il m'a dit, jamais. Est-ce qu'on lui fait rentrer du porc dans sa cellule? Il m'a dit, non, jamais. Donc voilà. Est-ce qu'il va à l'école? Non, jamais. Et juste avant, on avait parlé des principes dans le Coran, comment on doit traiter un détenu dans l'islam. Et je lui ai dit, finalement, c'est qui est le plus proche de la charia? La France ou Daesh? Et là, je vous assure, il a regardé le plafond. Et c'était un tournant. Et c'était pas préparé. Je vous assure, c'est venu... dans la discussion que j'ai appelée par la suite principe de réciprocité. Voilà. Si c'était. Il y a aussi un autre principe qui est la démystification des symboles de cette idéologie. Par exemple, Imam Ahmed, il a donné beaucoup au patrimoine musulman aussi. Mais comment il est présenté chez les salafistes? Limite, il est présenté comme un dieu. Alors, il a fait des bourdes aussi. Donc, il faut montrer tout, la démystification. Imam Malik, par exemple, il croyait que une femme peut porter un bébé jusqu'à 4 ans dans son ventre. Il croyait, il a écrit ça. Vous voyez? Maintenant, un enfant rigole par rapport à ça. Vous voyez? Donc, la démystification. Et aussi, vous savez, le salafisme, ça veut dire revenir à l'époque du salaf, des siècles de lumière. Lumière, tout se passait bien, ce que promettent en quelque sorte les mouvements de lumière comme Témoins de Jéhovah, où tout se passera bien, pas de malheur, pas de maladie, pas de cancer, etc. Et puis, on revient à cette époque-là, on fait comme les salafs et on vivra très bien. Donc, une lecture juste et critique des événements historiques issus des ères vénérées permet aussi de démystifier ça. À cette époque aussi, vous savez, on a catapulté la Kaaba, la Mecque, avec du catapulte. On a des musulmans se sont entretués. Vous voyez? Donc, tout ça fait en sorte à ce qu'on démystifie un petit peu. Et tout ça aussi, ne pas mentir à la personne. Rester. S'il a raison, il faut lui dire. Il faut lui dire le lien de confiance. C'est très important. Être intègre, juste. Donc voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce que que vous pouvez juste expliquer le principe de réciprocité,
Oui. Alors, cette personne, elle est détenue en prison. Parce qu'elle a été violente. Elle a commis, elle a frappé quelqu'un d'autre obédience avec une machette. D'accord ? Cette personne, elle est en prison. Elle va à l'école, fait du sport. Ses parents viennent la voir en prison, lors du parloir. Elle a droit au téléphone, la cabine. Elle peut continuer du halal. Et l'État lui paye des imams pour l'accompagner dans son cheminement de foi.
Juste continuer, c'est de pouvoir acheter des produits halal. Pour améliorer la vie.
Voilà. Et on avait imaginé avec cette personne, si toutefois Daesh avait dominé le monde et un juif vient faire la même chose et attaquer un musulman au sein de Daesh. Est-ce que Daesh, lors de sa détention, lui permettrait d'aller à l'école ? Est-ce que ses parents le voient ? Est-ce qu'ils lui font rentrer un curé, un rabbin ou un représentant de sa foi ? Est-ce qu'on va lui acheter du porc pour qu'il le mange ? Hein ? Respecté ? Vous voyez ? Est-ce qu'il m'a dit non, il va tuer, c'est la combinaison orange. C'est pour ça que je dis, parce que Daesh met une petite combinaison orange avant d'exécuter une personne. Voilà. Finalement, c'est qui est proche de la religion, finalement ? C'est la France. Vous voyez ? Donc voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Et sur le fait que par les valeurs universelles, on pouvait aussi questionner les gens. Parce que est-ce que avec ça peut être la radicalisation, mais je dirais dans tout discours répété, voilà. On peut avoir notre conscience qui change et que des valeurs qui sont considérées comme universelles ne soient plus autant que ça. Et du coup, dans quelle mesure est-ce que ça a vraiment un effet ?
Oui, l'objectif c'est de activer ce qui est en commun. Activer ce qui est en commun entre tous les humains. Vous savez, il y a des valeurs qui sont universelles. Tout le monde, dans tous les temps, ils sont d'accord. Par exemple, le sens de la justice ou bien le fait de dire la vérité. Même le plus gros des mythos, il n'aime pas à ce qu'on lui ment. J'arrive. Il y a des valeurs, par exemple, comme l'honneur. L'honneur,